Romans, BD, documentaires, livres pour enfants ou guides de voyage, c'est qui ou quoi sur Radio Duo. Une demi-heure pour vous parler de livres à lire tout à l'heure avant d'aller se coucher ou demain à n'importe quelle heure de la journée. Ce soir, qui ou quoi revient sur Radio Duo en mode cercle avec Vincent. Bonsoir Vincent.
Bonsoir Axel.
Et moi-même, le cercle de qui ou quoi, c'est contrairement à d'habitude, non pas deux ou trois chroniques de livres, mais plutôt un échange autour d'un seul livre sur lequel on va pouvoir vous exposer nos différents points de vue pour vous donner ou pas l'envie de lire pour que vous fassiez le vôtre d'avis justement. Le livre de ce soir, c'est un roman qui est sorti avant les grandes vacances, en mai, chez Fayard. Ça s'appelle « La Vespasienne » de Sébastien Rutès. Je n'en dis pas plus pour l'instant. Le cercle de qui ou quoi, c'est parti.
Lorsqu'on a fait le dernier cercle de qui ou quoi qui est écoutable en podcast sur le site de Radio Duo, pour ceux que ça intéresse, c'est moi qui ai choisi le livre dont on a parlé. On avait parlé d'un auteur, Li Kunwu. Aujourd'hui, c'est toi, Axel, qui a choisi. Et explique-nous donc pourquoi on parle de ce livre ce soir.
Alors, ce soir, donc, on parle de La Vespasienne, de Sébastien Rutès. Et en gros, il y a trois raisons pour lesquelles on parle de ce livre ce soir, toi et moi. Alors la première, elle est liée à notre histoire à tous les deux. Parce que avant d'habiter à Saint-Étienne et d'être stéphanois d'adoption, nous avons, toi et moi, grandi en partie à Annecy. Et il se trouve que l'auteur du livre, Sébastien Rutès, il est aussi né à Annecy. Il est né la même année, il a grandi au même endroit. Alors bien sûr, sans être des grands copains, on s'est toujours croisés, vus de loin, et nous avons justement des grands copains en commun. Résultat, je suis la carrière littéraire de Sébastien Rutès, qui en est quand même à son cinquième livre. La deuxième raison, c'est le thème du livre en fait. Et ça, on va largement revenir dessus, mais en gros, ça parle de pipi, de Paris, et a priori un petit peu de polar, parce qu'il a écrit pas mal de polar. Bref, c'est pas que ces thèmes soient particulièrement des obsessions pour moi, mais ce côté trash annoncé me plaisait beaucoup. Et la troisième raison, et là je vais parler en fait de la concurrence, c'est que dans l'excellente émission Mauvais Genre de France Culture, que j'écoute depuis peu régulièrement, Sébastien Rutès a été invité au moment de la sortie du livre et que l'échange qu'ils ont eu à ce moment-là à l'antenne a achevé de me convaincre d'enfin lire un livre de Sébastien Rutès, parce que c'est pas faute d'en avoir chez moi, mais j'en avais lu aucun. Bref, tout ça fait que quand on s'est demandé, toi et moi, de quoi on allait parler ce soir dans le cercle de qui ou quoi, eh ben, j'ai proposé ça.
Très bien. Et donc, commençons donc par l'auteur. D'où vient Sébastien Rutès ?
Merci. Comme j'ai dit tout à l'heure, enfin, quand je viens de dire en préambule, Sébastien Rutès, il est originaire d'Annecy, mais il est parisien depuis bien maintenant 20 ans, je crois. Et après, je vais pas inventer une biographie professionnelle. Pour ça, en fait, il n'y a rien de mieux que Babelio et Internet. Parce que justement, moi, les infos que j'ai sur lui sont tout sauf pro. Donc, il est écrivain, il est maître de conférences spécialiste dans la littérature latino-américaine et plus particulièrement mexicaine, d'après Babelio. Il travaille sur les littératures de genre, les questions d'intertextualité, ne me demandez pas ce que c'est, je ne sais pas, et le roman hispano-américain en particulier. D'ailleurs, il y a consacré sa thèse de doctorat « Stratégie de l'intertextualité dans l'œuvre policière de Paco Ignacio Taibo II », ce qui, je suis sûr, est très intéressant, mais il faut déjà au moins avoir lu un livre de Paco Ignacio Taibo II. Il a été directeur jusqu'en 2008 de la revue espagnole Gangsterera, qui était dédiée au roman noir. Et puis, eh ben, il a publié divers articles dans des journaux, des revues spécialisées. Dernièrement, il a pas mal écrit dans une revue qui s'appelle Délibéré sur Internet. Et puis, il est l'auteur de nouvelles en espagnol, en français. Et puis, il a publié deux romans à la Tinoir, les deux premiers, Le linceul du vieux monde, La loi de l'Ouest. Un roman chez Actes Sud qui s'appelle La mélancolie des corbeaux et Monarque avec Juan Hernandez Luna. Et La Vespasienne, c'est son cinquième roman que nous avons lu tous les deux. Et donc Vincent, je te passe la parole. Est-ce que tu peux nous présenter le livre ?
Alors, pour vous présenter le livre, je pense que le mieux, c'est que je vous lise un petit résumé qui est en quatrième de couverture. Novembre 1941, Paul-Jean Lafarge, directeur de la Revue des Lettres, est un homme sans opinion, ni autre passion que la poésie. Depuis sa fenêtre, il observe la Vespasienne de sa rue, où se pressent habitués et inconnus, jusqu'au jour où, constatant un étrange manège, il s'y rend et y découvre un pistolet de chargeur. J'irai pas plus loin parce que on n'a pas l'habitude de spoiler dans qui ou quoi les récits, les romans dont on parle. Je n'ai pas d'autres pour présenter le livre. Ce qu'il faudrait.
Tu voulais pas revenir sur le. Sur la Vespasienne.
Tu veux que je te fasse un petit historique de la Vespasienne ?
S'il te plaît.
Oui, parce que je pense que ceux qui nous écoutent et celles qui nous écoutent ne savent peut-être pas ce que c'est une Vespasienne. Alors, une Vespasienne, on va dire vulgairement, ce sont un petit peu des toilettes publiques. À l'origine, cela remonte à l'Antiquité, avec l'empereur Titus Vespasianus, à qui on doit d'ailleurs l'expression « l'argent n'a pas d'odeur », et qui avait en fait mis en place ce type de toilette publique. Puis ensuite, c'est revenu vers 1834, je crois. C'est sous le préférent Buteau qu'on a reconstruit des Vespasiennes. Donc, voilà. J'ai pas plus à en dire, sauf que, voilà, c'est juste que les Vespasiennes ont une architecture assez particulière. C'est des toilettes publiques où on voit les pieds et la tête des gens. Donc, on devine, on fantasme énormément de choses sur les Vespasiennes.
D'accord. Donc ça, c'est le lieu central de l'intrigue du livre. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Tu nous as lu le quatrième de couve. Mais il y a un truc en particulier concernant Paul-Jean Lafarge. C'est qu'au-delà d'être éditeur de poèmes...
Paul-Jean Lafarge est un soupeur. Alors, qu'est-ce qu'un soupeur ? Un soupeur, c'est une personne qui a pour habitude de poser des petits croutons de pain dans les urinoirs et de les ramasser ensuite, une fois que ces croutons sont imbibés d'urine. C'est ce genre d'obsession qu'a Paul-Jean Lafarge.
Ok, mais il va en faire quoi ? Il les ramasse et il en fait quoi ?
Il les ramasse et... soit il les humecte et il aime les... comment expliquer ? Je n'ai plus le mot.
Sans délecter, en fait, il en fait de la soupe, quoi. D'où le nom de soupeur. Il les mange, en fait.
Voilà, c'est ça.
Ok. Bon, donc je vais, maintenant que tu nous as dit un peu le soupisme, on va se lancer un peu franchement dans ce qu'on a pensé du livre. Donc je vais dire un peu ce que j'en ai pensé, hein Vincent ?
Oui, dis-nous ce que tu en penses, Axel.
Alors, ça tombe bien que tu parles de soupisme. Parce que moi, justement, cette histoire de soupeur, c'est pas du tout mis en avant. Ça n'a pas du tout été mis en avant lors de la sortie du livre. On savait que ça parlerait de toilette, hein, forcément, vu le titre du livre. Mais ce n'est pas ce qui est écrit sur la quatrième de couve. Alors, parce que j'imagine aisément que ce soit quelque chose qui fait peur et que ce n'est pas un truc que l'éditeur va forcément mettre en avant. Mais moi, ce truc de soupisme, enfin de soupeur, là, dans le livre, je l'ai découvert en écoutant l'émission Mauvais Genre, dont je parlais justement au début. Et c'est ce qui a achevé de me convaincre de le lire. Parce que quand on parle de soupisme, on touche à la limite de ce que moi je peux concevoir en termes de pratiques sexuelles un peu chelou, et en fait ça me fascine. Le soupisme, moi j'ai découvert ça sur le tard, c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps que ça, par un ex-collègue, ex-libraire lyonnais, au détour d'une conversation sur des films de Pasolini, Vases de noces et autres joyeusetés trash. Conversation au cours de laquelle il m'avait décrit cette pratique que je ne connaissais pas. Et depuis, on m'en a parlé régulièrement, comme si en fait c'était une évidence, un truc que tout le monde connaissait. J'ai d'ailleurs un copain récemment qui m'a dit se souvenir précisément de voir des croûtons dans des pissotières publiques quand il était plus jeune. Depuis, j'essaye moi aussi de me souvenir si j'ai vu des choses pareilles, mais franchement, je crois pas. Toujours est-il que c'est quelque chose que j'ai extrêmement de mal à concevoir, je trouve ça vraiment super crade. Je crois même que j'en suis, comme j'y crois pas, je doute de la véracité d'une telle pratique. Et pourtant, grâce à Internet, aujourd'hui, on peut voir beaucoup de choses. Mais bon, en même temps, j'ai jamais cherché à voir. Mais bon, cette pratique qui s'accompagne donc d'un espèce de secret, parce que personne... Parce que voilà, ça reste un truc qui se fait dans l'ombre. D'ailleurs, même dans l'émission Mauvais Genre, ils évoquent le témoignage de quelqu'un qui a beaucoup pratiqué les Vespasiennes après-guerre et qui a toujours constaté la présence de pain, mais qui n'a jamais vu de soupeur. Tout ça pour dire que donc, cette pratique me révulse et me fascine un peu. Et c'est cette fascination-répulsion qui va en fait conditionner ma lecture, qui a conditionné ma lecture. Parce que moi, quand j'ai lu le livre, j'ai essayé de chercher des réponses, de comprendre comment on peut en arriver là, pourquoi on le fait, etc. Sauf qu'en fait, assez rapidement, au cours de ma lecture du livre, je me suis rendu compte que ces réponses, je ne les aurais pas. Parce que malgré la précision de ce qui est décrit, la cohérence de la psychologie des personnages, j'ai plus senti un truc, un peu comme moi, de fascination-répulsion de la part de Sébastien Rutès, alors que moi, j'aurais voulu un témoignage, quelque chose de plus viscéral, quelque chose de vécu. Mais... Bon, après, peut-être que je me trompe et qu'il y a... Mais en vrai, dans le livre, j'ai vu aucun élément qui vont dans ce sens du témoignage véridique et vécu, quoi. Et en fait, à partir du moment où je me suis rendu compte de ça, quoi, que je trouverais pas ces réponses-là, je me suis demandé ce qu'essayait de me raconter Sébastien Rutès. Et en fait... La réponse est venue lors de la préparation de l'émission, pendant laquelle j'ai réécouté cette interview. On a tous les deux beaucoup écouté cette interview, tu vas pas me contredire.
Non.
Donc elle va souvent revenir dans l'émission, où il explique qu'il a eu envie de mettre en scène des concepts. Alors c'est vrai qu'à ce niveau-là, on est plutôt servi. Le personnage étant un soupeur, mais marié à ce qu'il y a de plus beau dans l'âme humaine, selon Sébastien Rutès, à savoir la poésie. Et le tout se passe dans une époque plus que trouble, qui continue aujourd'hui d'ailleurs à questionner la nature humaine, l'invasion allemande, la résistance, etc. Et d'ailleurs, je pense que donc c'est ça le centre du livre, nous parler de la nature humaine. Alors c'est vrai que moi, face à ces concepts, je me sens un peu largué. J'ai pas les clés d'accès immédiates aux propos, et ça me gêne, parce que trop d'allégories. Puis je le répète, le soupisme a pris une place trop importante pour moi dans ma façon d'appréhender le livre. Donc d'une manière plus générale... Après tout ça, j'en suis arrivé à me poser des questions sur ce que je recherchais dans un livre. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Au final, moi, je suis ressorti un peu circonspect de ma lecture. Est-ce que c'est un conte, une allégorie, juste une histoire ? J'ai pas encore vraiment réussi à trancher, ni à vraiment cerner le propos, si ce n'est qu'on a tous une part d'ombre en nous, et une bien sombre. À part ça, et je vais finir sur deux points avant qu'on marque une première pause... je voulais quand même aussi parler du côté historique du livre. Tout ce que tu as décrit tout à l'heure sur les Vespasiennes, bon bah en fait ça on le lit dans le livre, l'historique des toilettes publiques, et c'est une grosse partie du début du livre, et elle est super complète. Moi, je trouve ce travail très, très, très intéressant, parce que je m'ai abordé l'histoire par ce côté-là. Je ne me suis jamais posé la question de l'histoire des toilettes publiques, quoi. Et en plus de cet historique donc des toilettes, il y a aussi la description de Paris sous l'occupation, qui, elle, est exceptionnelle. Parce que, comme on dit dans le jargon, on s'y croirait. On sent que Sébastien Rutès, c'est un vrai amoureux de Paris, qu'il a vraiment embrassé complètement cette ville, qu'il la connaît, qu'il pour le coup, on n'est pas comme le soupisme, on est vraiment, on sent qu'il a pratiqué la ville. Le livre transpire en fait une espèce d'amour de Paris. Ajoutez à ça la qualité d'écriture, et j'insiste dessus, je m'y connais vraiment pas vraiment assez pour analyser des styles et tout ça, mais je trouve que le style s'inscrit dans une veine classique qui est vraiment très très réussie de bout en bout. Et au final, je mettrais vraiment le livre à côté de ces ouvrages qui décrivent très très bien Paris. Les Zola, les pavés de Paris d'Emmanuel Guibert, dont j'ai parlé ici à Qui ou quoi l'année dernière, ou même le dernier tome des Passagers du Vent dont j'ai parlé il y a quelques semaines. En fait, pour quelqu'un qui aime Paris, eh ben, la Vespasienne, c'est du pain béni. De retour dans Qui ou quoi sur Radio Do. On continue à vous parler de livres, de la Vespasienne de Sébastien Rucest, et on reprend. Donc maintenant, moi, j'ai donné mon avis, Vincent. À toi de donner le tien.
Bien, Axel. Moi, j'ai trouvé beaucoup de qualités à ce livre, notamment l'originalité de l'intrigue, et pourtant, je suis un petit peu resté sur ma faim. Alors, je dois avouer qu'avant d'avoir lu le livre, j'ai écouté l'émission Mauvais Genre, qui m'avait fait un petit peu trop fantasmer. Je m'explique. Suite à l'émission que j'avais écoutée, j'avais pensé bizarrement aux Racines du Mal de Dantec. Je me suis souvenu des 200 premières pages où vous aviez une description hallucinante du mal qui ronge et pourrit Andreas Schalzman, le serial killer. Et 200 pages que j'avais avalées d'un trait. Et là, nous sommes dans un contexte complètement différent. Nous sommes sous l'occupation. Une époque fascinante, une époque taboue. En fait, dans le livre de Sébastien Rutès, je me suis posé des questions. En fait, ça m'a poussé dans des questionnements. Je me suis demandé qu'est-ce que j'aurais fait à cette époque. Est-ce que j'aurais été un traître, un salaud ou un héros? C'est tout le mérite que je trouve à ce livre, avec cette intrigue où tout tourne autour de la Vespasienne, que l'auteur décrit comme un petit bout de zone libre, plus libre encore que la zone non occupée, sans pétainiste ni gaulliste. Autre chose, j'avais lu juste avant la Vespasienne, j'avais lu La Mélancolie des Corbeaux. Et étonnamment, j'ai...
Tu peux redire ce que c'est la Mélancolie des Corbeaux ?
Eh ben, La Mélancolie des Corbeaux, c'est un livre que Sébastien Rutès, on va définir ça comme un polar animalier.
C'est un des livres de Sébastien Rutès, mais...
Qu'il a écrit avant, 2011, aux éditions Actes Sud. J'encourage tout le monde à lire ce livre. Et dans ce livre, en fait, vous avez des animaux qui ont des sentiments très proches des humains, et notamment le corbeau qui se pose beaucoup de questions philosophiques sur sa condition d'animal. Et inversement, en fait, dans la Vespasienne, on a Paul-Jean Lafarge, qui me semble se rapprocher d'une forme d'animalité par ses habitudes pourrait retrouver répugnante, mais finalement, pour lui, c'est peut-être une forme de normalité. En tout cas, voilà, c'est ça qui m'intéresse aussi dans la Vespasienne. C'est ces personnages qui sont en ordinaire, qui en apparence sont ordinaires et en fait. On est dans un récit assez, assez extraordinaire.
Ok. Je sais que toi, par exemple, tu n'as pas du tout le même rapport au soupisme que moi. C'est-à-dire que moi, ça a pris vachement de place, alors que toi, tu trouves que c'est un élément d'intrigue comme un autre, c'est ça ?
Ben, je ne sais pas si je dois évoquer ça à l'antenne. En gros, moi, je travaille un peu dans le médico-social, donc sans faire de remarques bizarres, quoi. Mais quelque part, l'urine des autres et les selles des gens, c'est quelque chose que je... Malheureusement...
Qui font partie de ton quotidien.
Font partie des soins que... Voilà, qu'on fait pendant la toilette.
Ouais. Voilà. Pour toi, ça a pas eu du tout cette importance. Je pense qu'on n'a pas du tout eu la même lecture. Parce que.
Je trouve quand même la pratique répugnante. Hein. C'est quand même la description. Ça soulève quand même bien le. ça soulève le cœur. Hein.
Oui, oui, non, ça d'accord, mais moi, d'en avoir discuté ensemble, c'est vrai que moi, j'avais vraiment, moi, ça prenait toute la place de ce pourquoi j'ai lu le livre à un petit peu une sorte de déception, alors que toi, ça participait à ta réflexion de ce que tu disais. Enfin, tu étais un peu plus en retrait et tu l'analysais plus parce que c'était ton quotidien, quoi. Enfin, oui, disons que tu n'avais pas le même rapport que moi du tout au truc. Tu n'avais pas cette curiosité malsaine et puis des trucs comme ça, quoi.
Ouais, et puis bon, je sais pas, moi, je trouve que justement, c'est cette habitude qu'on pourrait juger malsaine qui fait rentrer Paul-Jean Lafarge dans une intrigue où il se retrouve à faire participer à un acte de résistance. Mmh. Et moi, je trouve que cette façon de faire, quoi,
c'est réussi.
C'est très réussi. Hein.
Ouais. Ok. Eh ben, merci, Vincent. Je pense que tu es d'accord avec moi qu'on encourage les gens à se faire leur avis sur cette œuvre, qui est quand même bien singulière et plus qu'intéressante. Parce que de toute façon, il est toujours un peu bon de se faire bousculer et de réfléchir à ce que fait le livre. Et que sous ces dehors un peu trash, je crois que la Vespasienne, ça a réussi pleinement cette mission-là, quoi. Donc faites-vous votre avis et envoyez-le nous à Radio Dio qui nous transmettra. On va finir ce cercle, on va essayer d'ouvrir un petit peu sur d'autres œuvres en lien avec le livre rapidement, parce qu'on a un dernier truc à passer. Ce soir, Vincent, c'est toi qui commences. Bon, t'as parlé déjà de La Mélancolie des Corbeaux, de d'Antec, des Racines du Mal. Est-ce que t'as autre chose à nous dire, à nous proposer?
Après, on peut évoquer l'œuvre de... Mais ce sera plus une référence cinématographique, l'œuvre de Pasolini. Voilà. Les salauds ou les 120 jours de Sodome, ou je ne sais plus le titre, je ne me souviens plus. Le titre, tu peux me le rappeler?
C'est Salauds ou les 120 jours de Sodome.
Merci.
Ok.
Voilà. J'ai pensé aussi au le réseau Manoukian de Guédiguian aussi.
Plus en mode résistance.
Plus en mode de résistance, ouais.
Ok.
Qui décrit.
Moi, j'en ai quelques-unes. J'en ai quelques-unes aussi. Pour les Stéphanois, la première chose auquel m'a fait penser le livre, et pas des moindres, c'est les toilettes publiques de la place Pinlevé, au-dessus de l'école des Frères Chappe, devant laquelle je passe, parce que j'habite pas loin. Régulièrement, et que depuis que j'ai lu le livre, de toute façon, j'y suis jamais allé. Ça pue la mort quand on passe devant, et j'arrive pas à me résoudre à me dire à aller voir si, parce qu'en plus il y a une boulangerie juste en face, donc, j'arrive pas à me décider à aller voir s'il y a des trucs parce que je pense que je m'en remettrai pas. La deuxième chose, moi, c'est toujours un film aussi, j'aime bien ouvrir, enfin, c'est vrai que les livres me rappellent. Porte souvent à des films, et comme j'ai découvert ça dans une conversation avec des trucs un peu trash, je voulais parler de Pink Flamingos, qui moi me questionne justement sur les limites de la provoque au cinéma et d'une manière générale, quoi. C'est-à-dire que je trouve que dans Pink Flamingos, on a tous un point de rupture. On a tous un truc. Ah, il parle pas de soupisme dans Pink Flamingos, mais il parle de tellement d'autres choses. Donc on a tous un point de rupture dans Pink Flamingos. C'est celui-là, mais je pense
qu'il faut l'évoquer.
ça pourrait être une émission toute seule.
Voilà. Oui, je pense.
Et le dernier truc dont je voulais parler, ça, c'est par contre, c'est de la musique. Et en plus, on va en profiter pour vous passer l'extrait dans la foulée. C'est un disque que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, qui s'appelle La Perversita, qui est un disque qui est sorti en 79, je crois, qui est fait par Hector Zazou, Jeanne Folly et le collectif Bazooka. Et en fait, chaque chanson évoque une perversion sexuelle. Donc la prostitution, la pédophilie, la nécrophilie, que des choses très joyeuses. Et pour le coup, il y a une chanson qui s'appelle La Soupeuse. Et on s'est dit avec Vincent qu'il n'y avait pas d'autre meilleure façon que de clore l'émission avec cette chanson. Donc, bonne soirée et à bientôt. On se retrouve dans 2 semaines pour Qui ou Quoi. La semaine prochaine, c'est Radio Gaga qui viendra à la même heure sur Radio Duo. Et donc, nous, on se retrouve dans 2 semaines pour une émission plus classique et dans un mois pour un autre cercle de Qui ou Quoi. Bonne soirée et à bientôt.
Je débouche à 8h sur le boulevard. Les magasins sont morts et les vitres noires. Mais les Vespasiennes dans ce désert sont déjà radieusement ouvertes et miraculeusement vides. L'odeur du lieu d'un coup me monte à la tête comme une folle ivresse. Lorsque je débouche à 8h sur le boulevard, les magasins sont morts et les vitres noires. Les Vespasiennes dans ce désert sont déjà radieusement ouvertes et miraculeusement vides. L'odeur du lieu d'un coup me monte à la tête comme une folle ivresse. Ma divine tranche devant lui. Un homme, un inconnu va venir. Il va se débraguetter voluptueusement, se soulager. Il va uriner abondamment, avec plaisir et ostentation, en soufflant fort. Un autre le suivra qui, tout comme son prédécesseur, compissera ma divine tranche devant lui. Toute la sainte journée je me promène, l'imagination habitée de suaves visions. Ce ne sont que Méa qui baille, chatte mouillée, sur être qui gicle, houle qui coule. Méa qui baille, chatte mouillée, urètre qui gicle, moule qui coule. Quand enfin 8h du soir sonne, je me glisse parmi les ombres jusqu'au cœur de mon royaume. 8h du soir sonne. Je me glisse parmi les ombres jusqu'au cœur de mon royaume. Je me baisse dans la nuit. Les effluves d'urine mêlées me tournent la tête. Ma pauvre tête qui bat de plaisir. La friandise trempée est à portée de mes lèvres humides. Elle fleure, ah si bon, l'ammoniaque pourri. Elle fleure, ah si bon, l'ammoniaque pourri. Une de mes mains descend entre mes jambes, relève ma jupe fendue. Glisse ma lèvre à travers le voile de mon sous-vêtement. S'enfonce dans le tissu. Un doigt me parcourt. Je suis aux anges. Un doigt me parcourt. Je suis aux anges. Un doigt me parcourt. Je suis aux anges. J'inhale follement toute cette bonne saloperie. Je m'en meurs. J'ai la soupe exquise dans ma bouche délicate et je mastique voluptueusement. Je salive indécemment. Une main à la bouche, une main à l'autre bouche. Mon ventre sursaute. Mes jambes tremblent et plient enfin sous moi. Crierai-je, on ne crie pas la bouche pleine. Crierai-je, on ne crie pas la bouche pleine.
carries me back straight into you.